Coconut Podcast. Saison 5. Présenté par le groupe Quartier. Avec votre animateur, Alain Jo. Mesdames, messieurs, bonjour, Kwe. Écoutez, en ce mois de l'histoire des Noirs, Coconut Podcast réitère avec une autre invitée de marque, messieurs, dames. En effet, Coconut Podcast se permet de vous présenter l'une des grandes dames des deux, trois dernières années sur la scène politique québécoise, mais je vous dirais municipale. Avec cette élection, eh bien, elle marque l'histoire de la ville de Longueuil, mais je vous dirais des annales de la politique municipale au Québec. C'est avec une immense joie que Coconut Podcast, et oui, on s'est déplacé jusqu'à l'hôtel de ville de Longueuil pour nous entretenir. Alors là, messieurs, dames, dans un premier temps, elle est conseillère municipale du district de Georges d'Or, oui. Elle y a grandi, on va en parler un peu plus loin. Mais aujourd'hui, mairesse Catherine Fournier lui a fait confiance et c'est elle qui préside le conseil de ville de Longueuil. Messieurs, dames, sans ne plus tarder, c'est avec honneur et respect que nous accueillons dans le cadre du mois de l'histoire des Noirs 2023, je dis bien, Madame la présidente du conseil de ville de Longueuil, Reine Bombo Alara, messieurs dames. Reine Bombo Alara, comment tu vas?
Très, très bien. Très bien, merci. Merci de me recevoir sur ton show. Puis ouais. Merci d'être bienvenue à l'hôtel de ville. Effectivement, on est dans la salle exécutive. Ouais, et là, ouais. Tu commences à devenir un habitué.
Ben là, on a eu Madame la mairesse, on a eu Catherine Fournier, puis là, on est avec toi.
Exact.
C'est juste incroyable. On a drapeau du Québec, le drapeau de Longueuil. Mm-hmm. Puis, Coconut Podcast, on a remporté ce prix qui fait en sorte qu'on fait rayonner la diversité à travers le Québec. Donc, on est franchement content d'être avec toi aujourd'hui.
Et toutes mes félicitations, d'ailleurs, pour le lauréat 2022, prix pour un Québec sans racisme. Félicitations.
Ben, le fait que tu sois élu toi-même dans la ville de Longueuil, que tu sois présidente, je pense qu'il y a un effort. On va en parler un peu plus loin dans l'entrevue, mais on sent que les choses changent au Québec, puis on y participe activement. Donc, tout en notre honneur, je te dirais.
Oui, absolument. Ouais. C'est beau. On voit effectivement un changement là, depuis plusieurs années, puis très heureux, j'en suis sûre, toi aussi, d'en prendre part, d'être partie prenante de ça.
Excellent, excellent. Reine Bombo Alara, écoute, c'est incroyable. Tu fais partie de cette cohorte de grandes dames issues de la communauté noire qui ont été élues, propulsées au-devant de la scène politique municipale. Écoute, je pense à Mme Cadet au niveau provincial, Mme Derismont, que tu as la chance de peut-être croiser de temps en temps, qui est dans Marie-Victorin. On a Madame Ouellet, exactement, qui est présidente également du conseil de ville.
Oui,
donc ton homologue, excellent. Puis on a tout plein de gens élus, là, à Repentigny, Joubert Simon, entre autres. Ouais. Donc, tu sais, c'est vraiment intéressant de voir cette émergence de gens issus de la diversité. Nous autres, Coconut Podcast, on est dans le mois de l'histoire des Noirs. On reçoit une aussi grande dame que toi. On va apprendre à te connaître.
D'accord.
Ouais, ouais, ouais. Ça a l'air que toi, ça fait déjà une trentaine d'années là, que tu es installé au Québec. Tu es rendu une vraie de vraie. Tu es rendu un vrai sirop d'érable. Ça fait 35 ans à peu près que tu es avec nous, là, 36, 35. Fais-tu le décompte un peu?
Oui, je suis arrivée en 88, en fait.
Quand même.
Mais avant d'aller plus loin, je veux mentionner qu'on a quand même deux grandes dames.
Oui, Mme Lacroix. Loi Lalika, qui est originaire du Congo également.
Exact, tout comme moi. Et on a Rolande Balma.
OK.
Elle qui est burkinabé.
Burkinabé, Burkina Faso, le pays des femmes intègres.
Hein? Oui.
Ouais, intéressant. Dis que tu es originaire du Congo, Kinshasa. On va voir si tu es pas pire congolaise. Mbote.
Mbote.
OK. Pas pire. Tu es capable de nous dire bonjour en lingala. C'est cool. C'est
en
bon.
Fait, j'y suis née.
OK.
Je suis arrivée ici très, très tôt.
OK.
J'avais pas 2 ans quand je suis arrivée. Et tu as raison de dire que ça fait plusieurs années que je suis à Longueuil. C'est ici que j'ai élu domicile, en fait.
Ouais.
J'ai gravité dans mon district de Georges d'Or. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis très, très fière de représenter ces quelques 11 300 quelques voix de mon district parce que je le connais, je connais les rues, je connais la dynamique du district, je connais les organismes.
Oh.
Puis j'en ai bénéficié également.
T'es une native de la place.
Tout comme.
Oui, tout comme. Ben là, il peut avoir grandi autant d'années. Là.
Exact.
Tout comme.
Ben, moi, je me sens 100% québécoise et 100% congolaise. Il n'y a pas de 50-50.
50, non?
Tigidou,
je suis avec toi là-dessus.
Oui,
ouais, on s'entend. C'est vraiment cool de pouvoir te parler. On sent ce renouveau en politique. Tu sais, je me dis, waouh. Tu sais, c'est comme avoir Michelle Obama devant moi.
Ah non, quand même.
Ben là, en tout cas.
Mais je suis très flattée,
à ton niveau,
mais quand
là. Oui, c'est intéressant.
C'est
intéressant. Tu arrives à Longueuil, mais tu n'es pas toute seule, là. T'as la famille, mais t'as une sœur, Sylvie.
Oui, connais-tu Sylvie?
Ben non.
Okay.
Écoute, quand on connaît notre podcast, on fait des recherches pas à peu près, puis ça a l'air qu'elle a été quand même ta comparse là, dans ton intégration dans ta nouvelle société. Quelques bons mots pour ta sœur Sylvie, puis surtout sa réaction, puis celle de maman, lorsqu'elles vont savoir que Mme Catherine Fournier... t'as dit, ouais, on va travailler ensemble. Ouais, je te veux dans mon équipe. Quelques bons mots pour maman et ta sœur.
Sylvie, c'est ma grande sœur. Moi, je pense que je n'aurais jamais survécu sans ma grande sœur. J'étais collée à elle littéralement quand on était jeunes. Elle a été, mon Dieu, une vraie grande sœur. Quand ma sœur me parle, jusqu'à aujourd'hui, quand elle met son pied à terre, je l'écoute. C'est ma grande sœur, définitivement. Donc, on est arrivé ici à Troyes avec ma maman et Sylvie. Ma mère s'est remariée là, mais aujourd'hui, c'est mon papa.
Oui, bien sûr.
Je l'appelle papa. Et c'était quoi?
Maman, elle a fait...
Ah, maman.
Oui, c'est ça.
En fait, quand j'ai parlé avec Catherine, puis on s'est entendu pour faire la campagne ensemble. J'ai fait un Zoom. J'ai appelé certains gens de ma famille. Je disais, il faut que je vous annonce quelque chose. Donc, on a fait un Zoom, puis je leur ai dit, je vais faire les prochaines élections. Mais même moi, j'étais in disbelief, comme on dit. Puis finalement, tout le monde, ma famille s'est impliquée. Au début, on se lançait là-dedans, puis on ne savait même pas vraiment dans quoi on se lançait. J'ai demandé à ma grande sœur d'être ma directrice de campagne parce que c'est définitivement la personne en qui j'avais
le plus grande confiance. On aime ça, c'est bon.
Définitivement.
Ça.
Et ma sœur est très...
Elle a de la rigueur.
Elle a de la rigueur, exactement.
On va arriver plus loin parce que même quand tu présides le conseil de ville, t'es quand même très cool, là, si tu me permets. Parce qu'on a suivi, nous autres. T'es très cool, mais t'as quand même cette rigueur. Il y a des règlements qui se doivent d'être suivis lors d'un conseil municipal ou exécutif. Puis toi, tu fais respecter ça. Tu t'es même donné un mot d'ordre de faire respecter les règles qui se doivent d'être appliquées. Est-ce que ça te vient de ta sœur, cette rigueur, tout en étant très malléable?
Excellente question. Je pense qu'on est un peu toutes comme ça. On est très simple et légère dans la vie, mais on est très pointilleuse sur notre... comment je pourrais dire? Je suis intransigeante, en fait, sur la justice et l'égalité et l'équité.
Est-ce un trait de caractère? Aujourd'hui, on vous voit davantage. Donc là, on apprend à vous découvrir davantage. Est-ce un trait de caractère? On est dans le mois de l'histoire des Noirs, de la femme noire.
Je pense que ça nous est associé beaucoup, effectivement. Je pense que moi, je parle et je carbure à l'intégrité toujours. Mm-hmm. Moi, j'ai grandi avec une maman qui m'a dit, ma fille, tout ce qui se fait la nuit se fait toujours voir à la lumière du jour. Donc, ne pense jamais.
Yes. Mm-hmm.
Puis, je vais même te raconter une petite anecdote, une histoire qui a fait que ça, cette phrase-là, mm-hmm. est devenue ancrée en moi.
OK.
Je devais avoir 6-7 ans mm-hmm. maximum, puis ma mère faisait, bon, c'est la réalité, immigrant première génération, on a le travail qu'on peut.
Ouais, retourner même faire ses études, là.
Son parcours
mm-hmm, intéressant.
Ici, mm-hmm. puis elle faisait du nettoyage dans un bureau d'avocat à Montréal. Imaginez, habite à Longueuil. Okay,
partir. Ouais.
Pour une raison X, là, c'est flou, elle n'arrivait pas à me faire garder ce soir-là, mm-hmm. puis finalement, je l'accompagne. Et elle trouve dans une poubelle un crayon mm-hmm. comme de très grande qualité.
Okay.
Mont-Blanc.
Ouais, c'est ça que j'allais dire.
Elle essaie le crayon sur le papier, elle dit « le crayon fonctionne » et elle remet sur le bureau. Et là, elle me dit « ma fille, ouais. tu vois, mm-hmm. n'importe qui aurait pu partir avec le crayon.
Yeah, » yeah, 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 yeah.
Et c'est là qu'elle m'a dit « tout ce que tu fais la nuit se fait toujours voir à la lumière du jour.
Yes.
Ça ne m'appartient pas, le crayon fonctionne. Est-ce que c'est une erreur, c'est peut-être? »
Est-ce que c'est un test qu'on te fait?
Oui, peut-être.
Ouais, voilà. Ouais, ouais,
mais moi, ça m'a choquée à 7 ans. J'ai dit, j'ai compris que c'était ça, l'intégrité.
Super.
Et ça m'a pris des années avant d'avoir cette discussion-là avec ma mère. Je ne sais pas pourquoi. Je pense qu'il y a 2 ans, je lui ai expliqué cette histoire-là, puis elle ne s'en rappelait pas. Puis elle m'a dit, j'ai oublié cette histoire-là, je ne m'en rappelais pas. Moi,
ça forge un caractère, exact. Ça forge une personnalité.
C'est à ce moment-là, oui.
Puis ça, c'est intéressant parce que quand même, quand tu leur annonces dans le Zoom familial que tu vas faire campagne avec Mme la mairesse Catherine Fournier, bon, tout le monde est super enjoué, oui. mais ils devaient se dire, éventuellement, on voit reine en politique. Parce que, écoute, tu présidais déjà le conseil d'établissement de l'école
secondaire de mon garçon.
De ton garçon, là, oui. qui a comme 16 ans là, aujourd'hui. Là,
t'es
bien déjà impliqué. Écoute, Coconut Podcast, t'as été élu sous le conseil d'établissement en 2018.
Exact.
Puis t'as fait tout un travail au sein du CUP. Parce que le conseil d'établissement, c'est là que se prennent les décisions là, au niveau de l'école. Puis, il me semble que tu t'es fait connaître à partir de ce moment-là.
Tout a commencé, en fait, à l'école secondaire de mon garçon. Je me suis impliquée parce qu'à l'époque, on parlait de l'éducation en sexualité qui allait arriver dans les écoles.
Le cours culture et citoyenneté.
Ben, moi, je voulais m'informer, c'était nouveau. Je voulais savoir comment ça allait intégrer nos écoles. Puis, il y avait beaucoup, je trouve, de discussions à l'extérieur ou de rumeurs. Puis, je me suis dit, je vais aller à la source. Je vais m'informer, puis je vais m'impliquer, tout simplement. Et puis, j'avais aucune idée du fonctionnement à l'époque, c'était la commission scolaire. Mais je me suis présentée. C'était à une réunion de parents.
C'était-tu les Patriotes à l'époque, non?
Commission scolaire Marie-Victorin.
Marie-Victorin.
Exact. Mm-hmm. Et je me présente à une réunion de parents. Et puis, en parallèle, il y a l'Assemblée générale de parents. Et donc, on me dit, pour siéger sur le conseil d'établissement, il faut être élu. OK. Donc, je me présente. Je fais un cours Laïus. Donc, je suis élue. Ensuite, on me dit, il faut quelqu'un pour représenter notre école à la commission scolaire. Je me présente. Je suis encore élue. Et finalement, quelques semaines après, je me présente à la commission scolaire. Il y a une centaine de parents qui sont là. Et puis, ils expliquent, mais moi, je suis là, je représente l'école, je dois apprendre. Je me dis, il faut que j'apprenne à la vitesse grand V parce que je représente une école et je n'ai aucune idée de ce que je fais, mais j'avais tellement soif d'apprendre. Mm-hmm. Et puis, on me dit, il y a des élections pour être secrétaire, président, tout ça. Puis, on me dit commissaire scolaire. Et ça revenait.
Ça, tu as été élu à l'époque. C'est ça,
En 2018. J'écris un cours Laïus sur le bord d'un papier. Ça. Je me présente devant une centaine de parents. Et puis, je me présente. Et puis, je suis élue une autre fois.
C'est le début de...
C'est le début.
Oui, c'est ça. C'est intéressant.
Mais je ne savais absolument pas ce que je faisais. Mm-hmm. Donc là, je me suis assise, je me suis mise à lire.
Ça a l'air que tu es très curieuse.
Je suis excessivement curieuse. Mais c'est ça qui m'amène toujours à une autre étape, à pousser
à ouvrir des... C'est ça. À pas dire défoncer des portes, mais à les ouvrir parce que... d'après l'équipe de recherche de Coconut Podcast, écoute, c'est toi, en voyant que tu t'impliquais, qui a vu le programme de Madame la mairesse Catherine Fournier, Coalition Longueuil, puis tu as pris ton téléphone, hein, comme on dit, pas barré, là, madame, puis madame, tu as envoyé un courriel, ouais, voilà. Catherine, moi, on s'est déjà croisé là, peut-être dans deux événements à Longueuil. J'aimerais ça, peut-être faire partie de ton équipe. T'as-tu de la place? Moi, je suis une fille de Longueuil, Longueuil-Oise.
Exact.
Puis, t'as eu un retour d'appel, peut-être as-tu le truc. Puis, ça, c'est encore une autre anecdote. Il faut que les gens ils sachent là, que leur présidente, quand elle veut de quoi, puis elle veut que ça change, les choses changent. À un moment donné, tu as appelé au Sénat du Canada, puis tu as demandé à parler à une sénatrice pour comprendre un dossier, savoir c'était quoi les possibilités. Tu sais, comme on dit, t'en as dedans, là, tu sais, ouais.
Il y a tout un contexte à ça, mais c'est vrai. Mm-hmm. Là, je parlais de ma maman qui m'a appris ce qu'elle m'a appris, mais j'ai aussi grandi avec un papa qui m'a toujours dit, ma fille... Si tu veux quelque chose, demande. Et la pire chose qui peut t'arriver, c'est qu'on te dise non. Et non n'a jamais tué personne.
Après, dis non, à un moment donné, tu trouveras bien quelqu'un qui te dira, ben viens donc, je te donne une chance.
Mais des fois, le non fait mal, vraiment très mal. Mais c'est correct, ça ne te tue pas. Des fois, tu plies les genoux un peu, tu ravales ta fierté peut-être, tu continues. Okay. Donc, j'ai grandi avec ça et j'ai toujours posé des questions. Des fois, on me disait, Reine, franchement, je ne peux pas poser cette question-là, ça ne fonctionnera pas. Donc, je me suis souvent trouvée dans des situations invraisemblables parce que j'ai tout simplement posé la question. Donc, je voulais rencontrer une sénatrice pour une raison X. Là, ça m'est venu par la tête. Puis, je suis allée sur le site du Sénat. On est en 2019-2020.
Okay,
Et je tombe sur Marie-Françoise Mégy. Et j'envoie un courriel à son bureau. Puis je dis, j'aimerais ça, la rencontrer, mais j'ai aucune raison. Je voulais juste m'asseoir avec elle et discuter. Écoute. Puis son bureau m'appelle, puis ils me disent, Madame Bombeau, la sénatrice Mégy va être à Longueuil. Telle date, avez-vous un restaurant à lui proposer? Puis finalement, on n'est même pas allé dans un restaurant parce que, longue histoire, elle avait plus de batterie, elle trouvait plus de GPS. On a passé 2 heures assises au McDonald's en face de la place Longueuil. À discuter.
Le café, était-tu bon?
Le café, moi, je bois jamais de café, je lui ai offert. Je disais, elle est chez moi, elle s'est déplacée.
Minimum.
C'est sur mon bras.
Ouais, c'est ça, OK.
Puis, elle m'a dit, qu'est-ce que tu veux savoir? J'ai dit, ton parcours, ça ressemble à quoi? T'es partie de quoi? Elle m'a expliqué son histoire. À aujourd'hui, encore, on est en contact. Puis,
donc, une inspiration. Ça a l'air que pour toi, c'est important d'avoir ces inspirations, ces modèles féminins. Toi, aujourd'hui, tu en es un. Tu es un modèle pour plusieurs jeunes filles issues de la diversité, pour les jeunes garçons, les non-binaires, non-genrés. Reine Bombeau-Alara, on est dans le mois de l'histoire des Noirs. Tu as un parcours plus qu'incroyable. Aujourd'hui, qu'est-ce que ça représente pour toi d'être une femme noire en politique, soit au municipal, au provincial, ou voire même au niveau fédéral? Quel impact penses-tu que tu as aujourd'hui sur l'ensemble de la population québécoise et surtout de la Rive-Sud, longueuilloise? On t'écoute.
Merci. Merci pour le compliment. Je comprends que je suis une référence très humblement. j'ai grandi de rien. On a dû bâtir. C'est en partant d'absolument rien. Tu l'as mentionné tantôt, maman a fait ses études ici, elle a fait le Collège La Salle, elle a fait l'université. D'ailleurs, ça a été la première à devenir bachelière dans notre famille.
Super.
Puis je pense que maman avait tellement une vision pour ses enfants. Pour elle, on venait pour avoir une meilleure situation. Elle comprenait l'importance ou le sérieux des possibilités qu'on avait ici, des ressources auxquelles on avait accès, puis elle a maximisé là-dessus. Elle est allée à l'école. Elle nous l'a inculqué aussi. Il n'était pas question. En fait, je n'ai pas tellement senti cette pression-là qu'il fallait réussir à tout prix. Comme, tu sais, souvent...
Mais le deal est comme, maman, elle se donne tellement pour nous.
Exact.
Regarde, je ne peux pas la décevoir là-dessus, parce que c'est comme, elle fait ça pour nous.
C'est ça.
On se retrouve là-dessus.
Oui, ça a été ça. Puis tu le fais par amour, tu le fais pour rendre ta mère fière, tu le fais pour redonner. Je comprends aujourd'hui qu'en grandissant de rien, en grandissant dans un quartier défavorisé, mm-hmm. puis que ta vision et ton travail acharné t'amènent ici, je pense que ça, c'est très... ça reflète énormément l'importance de ne pas s'arrêter à d'où est-ce qu'on part. Mm-hmm. Et là, on va le dire, je suis une femme, mm-hmm. je suis une femme noire. Mm-hmm. Je suis une femme qui n'a pas grandi dans, comment on dit, la ouate, exactement.
Dans cette opulence démesurée.
C'est ça, mais ça n'a rien changé. Parce qu'aujourd'hui, je suis là, puis j'ai encore, tu sais, ma vie ne s'arrête pas ici. J'ai une vision incroyable, j'ai des projets incroyables qui s'en viennent. Donc, je pense que juste ça, là, si je peux montrer aux gens que, peu importe les circonstances dans lesquelles tu es, mais ça ne définit pas, mm-hmm. pardon.
Oui, tout à fait.
Où est-ce que tu t'en vas?
Mais dans ce parcours, plusieurs jeunes vont te dire, oui, mais Reine, on est des fois victime de discrimination, de racisme. Comment as-tu pu mettre ou en faire fi ou tout simplement composer avec une réalité que le Québec a eu à dealer avec, là, en quelque sorte? Le racisme, est-ce que ça t'a freiné ou ça a peut-être été davantage un moteur qui t'a fait dire, ben moi, je vais prouver à ceux qui peuvent douter que, écoute, on en a dedans, nous aussi, donc je t'écoute.
Hein? Mais le racisme, le profilage racial, tout ça, mm-hmm. on n'en fait pas fi, on le vit. La réalité, c'est que la première chose que les gens voient quand mm-hmm. tu rentres à quelque part, c'est que tu es noir. Mm-hmm. Tu ne peux pas mm-hmm. le mettre dans ta poche. Tu composes avec. Mais on voit une majeure évolution. Ça, je le dis régulièrement, mm-hmm. que moi, à mon école primaire, on était 5 noirs, de 2 familles différentes, ma sœur, ma cousine et moi d'un côté, et 2 frères et sœurs. Et quand je regarde mon fils, exact, qui est toujours dans le centre de service scolaire Marie-Victorin, mm-hmm. qui était à la même commission scolaire que moi, ils sont à 51% des jeunes issus de l'immigration.
Donc, il y a un changement, pas à peu près. Là.
Il y a un changement. Mais moi, ce que j'ai vécu quand j'étais au primaire, puis qu'on me demande de toucher ma peau, puis qu'on me dise...
T'es pas du chocolat.
T'es pas du chocolat, puis comment ça, tes cheveux qui sont comme ça, puis pourquoi tes lèvres sont plus grosses que les miennes, puis pourquoi... Ça, j'ai pas aimé, là. C'est sûr que... T'es comme ostracisée, t'es toujours celle différente. Mais de voir qu'aujourd'hui, mon fils n'a pas à gérer avec ça... Puis il y a cette évolution-là, il y a une plus grande ouverture.
Sa fierté pour maman, très rapidement, lorsqu'il voit maman être, tu sais, qui elle est, là, dans les premières citoyennes de Ville de Longueuil, comment qu'il réagit ça, comment qu'il prend ça, plutôt?
Ouais? Mon fils est très détaché. Très, très détaché. Mm-hmm. Je te dirais que l'émotion vraiment que j'ai vue chez lui, mm-hmm. parce qu'il ne regarde pas le conseil de ville, mm-hmm. il vient pas avec moi dans les événements. Mm-hmm. Souvent, mm-hmm. j'essaie de le tirer. Mm-hmm. Non, ça ne l'intéresse pas. C'est le soir où j'ai gagné les élections, où on était dans la salle pour recevoir les résultats. Mm-hmm. À ce moment-là, j'ai vu mon fils sauter. Mais il m'a vu pendant 6 mois faire du porte-à-porte, passer à la porte, mm-hmm. revenir brûler. Lui, mm-hmm. Mais je l'avais assis et je lui avais expliqué tout début. Mm-hmm. Je lui avais dit, ça va être des mois de sacrifice. Il faut que tu comprennes que maman ne sera pas là autant, mais ça va payer. Mm-hmm. Mais donne-moi ces mois-là, on va se voir moins, on va se croiser. Mm-hmm. Mais je serai toujours là. Puis l'important, c'était qu'on communique. Okay. Tu es où? Tu fais quoi? Là, je suis là, je rentrais telle heure. Donc, ce soir-là, j'ai vu l'émotion. Mais après, c'est un ado qui est un peu détaché, qui a sa vie. Il n'est pas impressionné par qui que ce soit, mon fils. Et je trouve en même temps que c'est une qualité.
OK, excellent.
Puis quand j'étais commissaire scolaire, mm-hmm. je lui disais, Jayan, une fois par mois, tu viens avec moi à une activité politique.
OK, superbe.
Puis il y a quelques reprises, je l'ai vu en train de parler ou faire des blagues avec des députés XYZ. Puis il n'avait pas... Il n'était pas intimidé du tout. C'est... Et ça, j'ai aimé ça. Mais il n'y a pas grand monde qui l'impressionne.
Est-ce qu'on risque de voir Fiston de Bombou Alara un moment donné dans l'arène politique?
Pas du tout.
Hein? Ah ouais?
Non, c'est un
fou. Sûr de ça, là?
Je ne crois pas du tout.
OK.
Je mettrais 100 $. Okay. Mon fils, c'est un sportif. C'est vraiment un athlète.
OK. Ouais. Ah, OK.
Oh oui, donc je pense que l'objectif, c'est toujours de faire la NBA.
On a vu Ken Dryden, là, du hockey, qui est devenu député, puis on a vu Jacques Lemaire, Jacques Demers, qui est devenu sénateur. Écoute, peut-être un moment donné...
Peut-être, mais il n'a tellement aucun intérêt. S'il devient, c'est que ça va se développer.
Ça va se développer?
En ce moment, il n'a pas la
vie. Il n'a pas, OK, excellent. Bon, maintenant, on rentre dans le plat principal. Il ne nous reste pas beaucoup de temps, mm-hmm. Reine. On a appris à te connaître. Là, tu gères, en tout cas, tu gères. T'es dans les grandes personnalités de Ville de Longueuil. Oui. Il y a plusieurs dossiers, nous, qui nous intéressent à Coconut Podcast. Dans un premier temps, qu'est-ce qui se passe dans Ville de Longueuil au niveau du mois de l'histoire des Noirs? Est-ce que vous avez des activités? Je sais que t'as dévoilé quand même une programmation. On est encore dans le mois de l'histoire des Noirs. Il reste quelques jours, on diffuse dans quelques moments. Quelle activité vous avez mis en branle? Est-ce que tu sens que les citoyens répondent favorablement? Est-ce que tes collègues sont sensibilisés par la chose? On t'écoute. Ouais.
Ben oui, en fait, faut savoir, pour vous mettre en contexte, qu'en février 2022, on a pour une toute première fois proclamé le mois de l'histoire des Noirs à Longueuil. Wow. Ça s'était jamais fait, exact. Okay. Et c'est d'où l'importance, je pense, d'avoir cette diversité-là pour amener des angles, des visions différentes.
Madame Catherine Fournier, sachez que votre choix, là, il est pas mal apprécié parce que ça permet d'agrémenter la vie puis le vivre ensemble à Longueuil. En tout cas, félicitations pour votre choix. Là. Trois personnes issues des communautés noires. Coconut Podcast, on est là, madame.
Donc voilà, suite à ça, cette année, on a mis sur pied une programmation.
OK.
Diversifiée. On parle de pièces de théâtre, d'ateliers. On parle d'expositions, de rencontres avec des auteurs. Donc, c'est très diversifié.
D'entrevues dans les podcasts.
D'entrevues, oui. Ouais. C'est vrai qu'on est
beaucoup. On vous a vu sur Focus également, là. Vous faites des capsules. C'est intéressant, ça.
Vous m'avez vu sur Focus?
Oui, c'est ça. En tout cas, sur YouTube, là. Okay. Oui, il y a une capsule où ce que... Vous nous étalez un peu votre parcours, donc c'est intéressant, là.
HEC Montréal, qui est mon université, qui m'a pris en entrevue aussi.
Oui, c'est ça.
Notre collègue Afin Walalka, qui en fait est chargé du dossier, qui a été prise en entrevue aussi pour parler de la programmation. Je pense à mes collègues qui, et en conseil d'arrondissement du Vieux-Longueuil et en conseil de ville, mardi dernier, ont mentionné le mois de l'histoire des Noirs. Et ça, c'est une grande fierté parce que c'est pas parce qu'on n'est pas noir que ça nous touche pas, au contraire. Mm-hmm. Donc, de voir mes collègues qui le mentionnent, puis qui invitent la population à prendre part aux activités et qui mentionnent qu'eux-mêmes ont pris part aux activités, il faut savoir que c'est pour tous. Ça n'a pas été créé pour nous. L'objectif, c'est justement
de rapprocher,
de créer d'ouvrir le dialogue, de s'intéresser à la réalité d'autrui, d'échanger. Donc, oui, effectivement. Puis, ça amène une curiosité. Tu sais, souvent, on va dire que le racisme part de l'ignorance. Bien là, en faisant ça,
ça permet...
Exactement. On va s'informer.
Déconstruire des préjugés.
Exactement. Puis toutes les activités sont gratuites en plus.
Bon,
j'invite la population de Longueuil, et même à l'extérieur de Longueuil, s'il y a des curieux, de venir prendre part.
De plus en plus, Longueuil, il y a cette offre un peu touristique. Là. On sent que de plus en plus, les touristes de Montréal viennent découper. Mais les Montréalais, en tout cas, Coconut Podcast, nous, l'été dernier, on était dans Montérégie, puis on s'est promenés, là, vous avez un centre-ville intéressant, un vieux Longueuil qu'on appelle, les rues sont fermées. Écoute, on sent que c'est effervescent au niveau culturel.
100%.
Puis là, avec cette offre depuis 2021, 2022, dans le cadre du mois de l'histoire des Noirs, c'est encore plus intéressant.
Oui.
Nickel.
Oui, on apporte une grande importance à la culture, effectivement. Puis vous avez raison, l'été dernier, la rue Saint-Charles était piétonnisée. Donc, ça permet aux boutiques qu'il y a sur Saint-Charles, aux entrepreneurs qu'il y a sur Saint-Charles, d'être accessibles. Les gens, ils marchent, ils font du vélo.
Ben, je pense que Mme Fournier, de plus en plus, elle est une adepte, hein, avec un de ses collègues, maire de Laval, de ses villes, M. Boyer, ville sans voiture, le concept de la ville 15 minutes, tout est à 15 minutes de proximité. On sent que l'urbanisme également préoccupe énormément l'équipe de Coalition Longueuil. Madame la mairesse, on saute un autre dossier. Elle s'est entendue avec les autorités aéroportuaires de Longueuil. Ça a l'air que maintenant, vous avez un accord qui va faire en sorte qu'il y a des terrains qui vont être mis à la disposition pour pouvoir davantage construire, mais dans une harmonisation avec l'aéroport de Saint-Hubert, c'est bien ça? J'aimerais vous entendre.
Effectivement. Ben, en fait... Premièrement,
vous êtes satisfaite de l'entente?
Ben, c'est historique. Hein? Ouais. C'est la première fois. C'est un aéroport qui a presque 100 ans. Une première fois, l'aéroport et la ville de Longueuil travaillent en collaboration ensemble. Et c'est ça le point important qui doit émaner de ça. C'est que là, on est dans une vision commune. Et l'aéroport et la
en
ville de
10 heures et 6 heures, plus de vols, plus d'avions qui vont survoler. Là,
exactement.
Ouais, c'est intéressant, ça.
C'est ça. Ouais, donc, c'est sûr qu'on se base sur... Il y a trois critères vraiment importants là, pour l'acceptabilité sociale. Mm-hmm. La qualité de vie, tu viens d'en parler. Yes. Il n'y aura plus de vols commerciaux la nuit entre 23 heures et 6 heures le matin.
Quand même.
C'est pas rien.
C'est pas rien.
Tu parlais de terrain, effectivement. La ville et l'aéroport vont s'entendre sur les terrains pour le développement économique. Donc, quelle entreprise est-ce qu'on aimerait avoir sur le terrain? Puis ça va amener une richesse, bien sûr, et pour Longueuil et pour les alentours.
Okay.
Donc, ça, c'est dans la portion d'innovation aéroportuaire et l'environnement aussi. On veut s'assurer... On est en train de travailler, en fait, sur un plan pour être carboneutre.
C'est ça, même le combat de Mme la mairesse, Mme Fournier, les îlots de chaleur, il y a tout... C'est une mouvance, là, au niveau des mairies du Québec. Les changements climatiques, elles s'y attaquent énormément. Donc, avec cette nouvelle configuration urbaine... Elle compte s'y attaquer énormément également?
Ben, c'est fini le temps hein, où on va raser des forêts pour faire du développement à domicile.
Urbain, là, oui.
De construire des immeubles, ça n'existera plus. Non, effectivement, je pense que justement, on est à repenser la façon de développer les villes. Plutôt, tu mentionnais que... l'auto en 15 minutes.
Oui, c'est ça.
Ben, les villes ont été faites alentour des automobiles. Mais là, on essaie de repenser. Est-ce qu'on peut être...
Le citoyen au centre de la ville, là, en quelque sorte. Là. Ouais.
Est-ce qu'on peut avoir plus de pistes cyclables? D'ailleurs, nous, on a annoncé qu'on allait... Je pense qu'on est passé à 60 km... de pistes cyclables déneigées. Avant, ce n'était pas déneigé.
Ouais,
je pense
ça.
Qu'on était à 5 km déneigés. On est passé à 60 km déneigés. Pourquoi? Ben, pour augmenter la part modale. On veut que les gens marchent, on veut que les gens courent, on veut que les gens...
Meilleure santé.
Meilleure santé, fassent de la bicyclette l'hiver, à l'année longue.
C'est intéressant. Vous pensez la ville, en ce cas, Coalition Longueuil, vous pensez la ville de manière globale. Vous prenez pas chaque pan puis vous essayez de les régler, mais il y a comme une vision qui est harmonisée, c'est intéressant.
Et cette vision-là est là depuis la campagne électorale.
Okay.
On avait fait plusieurs promesses électorales et en ce moment, on est en train de les concrétiser un par un, effectivement. Puis la réflexion a été faite, comme tu dis, de façon globale pour la ville de Longueuil. Puis, comme tu le dis, un peu repenser les façons de faire parce que les temps changent. Autre temps, autre mœurs.
J'adore. Autre temps, autre mœurs. Développement urbain dit que même nous autres, que notre podcast, ça fait deux fois en moins de 6 mois là, qu'on vient intervenir. On commence à se dire, on va regarder pour acheter peut-être dans le coin. Tout citoyen qui veut s'installer dans une nouvelle ville va regarder l'aspect également au niveau sécuritaire, sécurité publique. Qu'est-ce qui est offert? Comment les forces de l'ordre interviennent? Écoutez, vous aviez l'un des grands directeurs de police qui a servi à Longueuil, M. Daguerre. Lui-même, lorsqu'il était en place, a fait appel à certains de ses collègues policiers, entre autres au niveau provincial, pour venir l'assister à Longueuil. On parle de M. Patrick Bélanger.
Exact.
Et lorsque M. Daguerre va être recruté par Ville de Montréal, parce qu'il y a des problèmes pas à peu près à Montréal aussi, votre directeur général, M. Parizeau, c'est bien ça?
Oui, exact,
oui, exactement. Il va constituer un comité, là, vous pourrez nous expliquer. Et vous allez arrêter votre choix sur M. Bélanger. Moi, comme citoyen qui voudrait m'installer ici, est-ce que M. Bélanger vous a garanti qu'il allait poursuivre dans le travail qui avait été fait par M. Daguerre? Écoutez, immersion, réseau, ça va-tu rester, là? Tu sais, c'est comme devenu référence au niveau du Québec. Même M. Bélanger, lorsqu'il était à la SQ, il fait 32 ans là-bas, lui-là.
Oui,
là. Il avait envoyé un de ses attachés pour observer comment votre projet réseau immersion fonctionnait. Puis là, après, M. Daguerre l'a recruté au SPVL, oui, c'est ça, au service de police de Ville de Longueuil, oui.
Non, au SPAL, au service de police de
l'agglomération. L'agglomération, oui, c'est pour ça que j'étais plus... Ouais. Merci, Madame la Présidente. Oui,
vous va? Êtes...
Ouais, ouais, excellent. On se promène entre Montréal, Longueuil, Repentigny.
Non, ça fait
ouais.
beaucoup d'acronymes.
Oui, exactement. Est-ce que ce choix, c'est le bon? En êtes-vous fier? Est-ce que M. Bélanger vous a garanti qu'il allait poursuivre dans le travail fait par M. Daguerre? On vous écoute.
Ben, en fait, moi, j'ai totalement confiance en M. Patrick Bélanger. Je suis très heureuse là, de la nomination.
Super.
Faut savoir que c'était important pour nous que le successeur de M. Daguerre continue justement les travaux, les chantiers qui avaient été commencés. Tu l'as mentionné, immersion, réseau. L'objectif, c'est qu'il y ait une pérennité là-dedans. Puis, M. Bélanger a effectivement confirmé qu'on continuerait dans cette voie-là. Puis, absolument, j'ai confiance. C'est pas nous, il faut savoir que nous, le politique, on n'a pas... Nous, on s'est pas impliqué dans le processus décisionnel.
Mais le directeur général avait quand même, c'est ça, un cahier des charges où ce qui se disait, bon, il fallait que le prochain... Madame la mairesse lui avait sûrement dit...
C'est important. Moi, c'est, ça, ouais, voilà. C'est sûr que c'était important. C'est une condition très importante pour nous que, justement, le travail de Fadi Daguerre qui a été entamé continue. Parce que c'est très prometteur. Puis on y croit profondément. Puis moi, j'ai eu la chance de siéger avec Fadi Daguerre puisque je siège sur la commission de la sécurité publique.
Ah, OK. Super.
Et maintenant, je vais siéger avec M.
Bélanger,
okay. Effectivement. Mais ben, oui, plein de confiance, absolument.
Okay. OK, superbe. Puis il était même aux enquêtes criminelles à l'agglomération de Longueuil au niveau du service de police. Là. Donc, c'est quelqu'un qui connaissait quand même déjà le fonctionnement de police de Longueuil.
C'est ça. Donc, c'était numéro 2 à la SQ. Ben, il est venu il y a quelques mois en tant que directeur adjoint.
Wow.
Et là, ça a été effectivement le choix premier.
Écoutez, Mme Fournier, elle a la capacité d'attirer les grandes pointures.
Elle a l'œil.
Hein? Mme Bombou Alara, M. Bélanger, écoutez, Mme Loualalika,
Mme Balmain.
Balmain.
Et toute l'équipe, d'ailleurs.
Ben là, écoutez, on tombe des nues, là.
Elle a une excellente vision. Ouais, je pense que c'est ce qui fait une de nos très grandes réussites. Je pense que l'équipe est complémentaire. Tantôt, quand je parlais de diversité, je ne faisais pas seulement référence au fait qu'on vient de la diversité, qu'on est noir. Non, on a de tout dans notre équipe. On a des entrepreneurs, un qui travaille à la banque.
Homme d'affaires,
homme d'affaires, un humoriste, Sylvain
Larocque,
que vous connaissez.
Oui.
Je veux dire, en expérience, même en bagage scolaire.
Oui, c'est exactement, voilà.
Totalement différent, donc... Cette importance-là, la vision de Catherine a été extrêmement importante, justement, parce que ça permet d'avoir une vision différente. Des fois, on peut s'asseoir, on parle d'un sujet. Lui, avec son expérience, arrive avec une proposition. Une autre, avec son expérience, arrive avec une position totalement différente. L'autre, parce que, je ne sais pas, moi, je suis noire, moi, je pense que, soit moi, j'ai vécu ça ou je comprends cette réalité-là. Est-ce qu'on a pensé à ça? Ah! On ne l'a pas vu sur cet angle-là. Donc, ça mousse les conversations. Donc, j'encourage tout le monde à être dans la diversité. Ce n'est que plus enrichissant. Oui, ben,
écoute, là, de l'Abitibi au Bas-Saint-Laurent, on peut se dire qu'il y a quand même une diversité énorme. Les gens ont une manière de parler différente,
des
habitudes culinaires différentes. Donc là, même des hobbies, si on se permet l'anglicisme, des passe-temps différents. Il y en a qui aiment aller à la chasse, puis il y en a qui aiment aller plus à la pêche. Là, tu sais, genre de même. Pour terminer, Madame Bombo Alara, Coconut Podcast, vous vous adressez pour 30 secondes à vos commettantes et commettants. Si vous aviez un beau mot à leur dire dans le cadre du mois de l'histoire des Noirs, le reste du Québec vous découvre, pour ceux qui ne vous connaissaient pas encore, d'aussi loin qu'à Blanc-Sablon. Hein? Pas pire, hein? Donc, Madame Bombo Alara, Madame la Présidente, vous regardez cette caméra et les 30 prochaines secondes sont à vous. Vos beaux mots à tous les Québécois et Longueuilloises en ce qui a trait au mois de l'histoire des Noirs.
Je souhaiterais dire, premièrement, merci à tous les citoyennes et citoyens qui ont voté pour moi. Je souhaite que chacune et chacun se rappelle que l'on est en 2023, ce n'est plus une question de couleur de peau ou de genre, je l'ai mentionné. L'heure est vraiment au travail acharné. J'encouragerai toujours l'intégrité. Donc, travaillons fort, travaillons droitement. Chacun et chacune a sa place à l'entour de la table. Il suffit justement de faire ce qui est en notre pouvoir pour avoir une place à cette table-là. Et une fois qu'on a une place à cette table, c'est de prendre des décisions cohérentes avec la vision, avec ce que nous sommes, et de se sentir intègre aussi dans les décisions que nous prenons. Donc, allons chercher cette place-là, faisons la différence dans tous les paliers. Pour ma part, c'est politique, mais ça peut être n'importe quelle sphère. Puis, je nous encourage à nous impliquer, à aller écouter la réalité de chacune et chacun dans le cadre du mois de l'histoire des Noirs. D'ailleurs, je suis allée voir le mythe de la femme noire.
Ah ouais, ça a l'air que c'est un...
C'est impeccable.
Ouais, c'est quoi, 20 femmes qui...
Exact, 20 ou 21 femmes
qui relatent
de leur réalité.
Puis, elles en viennent toutes au même constat, un peu, là, ça a l'air intéressant. Écoutez, Coconut Podcast, on te remercie grandement, Reine Bombo Alara. Toute une entrevue. Je pense que là, c'est Mme Loalika qu'on va venir voir, Mme Bombay.
Balma,
exactement. On commence à découvrir le Québec en son entièreté, dans la diversité la plus éparse là, qu'on puisse avoir. Incroyable. Puis, félicitations à ta directrice de campagne, Mme Sylvie. On vous dit bravo aussi. Vraiment, merci. Et merci à ton équipe, Mme Camille, Mme la mairesse, de nous avoir permis d'être avec toi durant ce mois de l'Histoire des Noirs.
Merci beaucoup pour votre visite, très appréciée.
Écoute, Coconut Podcast, en terminant nos entrevues, on va te le faire toi aussi, on s'est promené à travers le Québec et on a été sur la côte nord à Sept-Îles et nos frères et sœurs des Premières Nations, ils nous disent en Innu, « Chinash Kumitin ». Par la suite, on a été à Québec, dans la région de la capitale nationale. Puis là, on a été rencontrer nos frères Huron-Wendat. Et en langue Wendat, ils nous disent « Téawek ». Puis là, nous autres, on a pris nos chicades, qu'on est allé jusqu'en Abitibi. Puis là, on a appris en algonquin, ils nous disent « Miigwech ». Puis là, on est dans la région de Montréal. On a beaucoup de frères et sœurs des Premières Nations, entre autres Mohawks, qui sont même en Montérégie. Et là, les autres, ils nous disent « Niawen ». Donc, on te dit un grand merci, Madame Bombo Alara, présidente du conseil de ville de Longueuil. Messieurs, dames, oui, nous étions alors là avec l'une des femmes qui a marqué les dernières élections municipales au Québec. Je dis bien en 2021, c'est bien ça, oui, exactement. Elle est devenue présidente du conseil de ville de Longueuil le 23 novembre 2021, si ma mémoire est précise. On vient de réaliser toute une entrevue. Je pense que sky or universe is the limit. Permettez-moi l'expression anglaise. L'univers n'est point limite pour notre présidente. Franchement, je vous invite à la suivre sur les réseaux sociaux. C'était une entrevue de Coconut Podcast dans le cadre du mois de l'histoire des Noirs. Sur ce, Niawen, merci. Au revoir.
Chou-chou! It's a wrap.
It's a wrap.
C'était bon.